Alors, Galates, chapitre 3, 1 à 14. La justification par la foi. On va regarder deux preuves de cette justification, les preuves d'expérience. C'est comme ça que M. MacArthur nous présente ça, les preuves par l'expérience et les preuves par l'écriture aussi. On va prendre le temps de regarder ça. Il est tragique, c'est ça qu'on voit dans les versets 1 à 5. Il est tragique et décevant un chrétien qui abandonne la pureté de l'Évangile pour un christianisme déformé, offrant plus que l'œuvre de Christ. Je répète, tragique et décevant, un chrétien qui abandonne la pureté de l'Évangile pour un christianisme déformé, offrant plus que l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça le verset 1. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Alors, peut-être qu'on comprend pas tout à fait ce que ça veut dire dépeint Jésus-Christ crucifié. Alors, ce matin, nous avons la traduction que j'ai en main, que vous avez entendue. Pour Richard, on a une autre. Célestin, on a une autre version différente. Claude en a une aussi. Peut-être que la sommeur est un peu plus claire pour nous montrer qu'est-ce qu'il veut dire par « dépeint Jésus-Christ crucifié ». Veux-tu nous le lire, Célestin, bien fort?
Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux.
OK. La mort de Jésus a été clairement dépeinte ou racontée, relatée à vos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus-Christ crucifié vous a été clairement présenté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est clair, dire que Jésus-Christ, il a été crucifié, vendu par Judas, puis il a été crucifié?
Il y a des preuves.
Est-ce que c'est juste ça qui a été présenté?
Il était présenté comme quoi qu'il avait été crucifié à notre place. Il est mort pour nous.
Je sais pas si vous entendez en arrière, là. C'est pas juste qu'il a été crucifié comme les brigands. C'est que toute l'œuvre rédemptrice, régénératrice, pardonnante, propitiatoire, etc. C'est un beau mot, hein? C'est parce que je veux avoir l'air intelligent en disant ça, propitiatoire, là. OK? Expiatoire, OK? On comprend le mot expiatoire. Il a expié, il a payé, racheté nos péchés, la condamnation de nos péchés. C'est ça qui a été dépeint aux Galates. Et c'est pour ça qu'il leur dit que c'est ça qui a été dépeint. OK, vu que vous parlez de fasciner, on va aller tout de suite à fasciner. Fasciner, charmé, fasciné, envoûté par une tromperie, par des flatteries, par des fausses promesses ou des puissances occultes. Ça, c'est la traduction de ce que le mot fasciné, tout ce que le mot fasciné englobe. C'est pour ça que dans la traduction sommaire, ça, je les ai sortis ce matin, étant donné que moi, je parle pas plus le grec que vous autres, donc l'importance d'aller voir dans d'autres traductions comment c'est traduit de manière à avoir le complément de la signification du mot fasciné. Et j'ai aimé la sommeur parce qu'il emploie le mot envoûté. Et là, quand on parle d'envoûté, on parle de puissance occulte. Donc, la question que Paul parle, demande aux Galates, qu'est-ce qui vous a fasciné, trompé, menti ou envoûté pour que vous vous laissiez enfirouaper? Ça, c'est français, c'est québécois, hein? Enfirouaper. OK? Par tout ça. Pourtant, on vous a présenté Jésus-Christ clairement. Donc, c'est intéressant de voir comme quoi que quand quelqu'un vient nous apporter quelque chose de différent ou un ajout à toute l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix, sa mort, sa résurrection, et le fait qu'il est monté au ciel est important aussi, tout cela, là, et qu'il est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un qui va ajouter quelque chose, on va voir qu'on doit le considérer comment. Ça veut dire quoi, anathème?
Maudit.
Maudit. On doit le repousser. OK? Et c'est important. C'est comme ça qu'on garde quoi? La pureté de la parole et du message. Il y a déjà beaucoup de choses dans la parole de Dieu qu'on a la difficulté à saisir. OK? Mais le message, la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Évangile, bonne nouvelle, est clair. Et on doit y coller et rester là. Ne rien y ajouter et ne rien y retrancher. Et eux, ils ajoutent et ils retranchent, les judaïsants. Ils ajoutent qu'il faut la loi en plus. Mais ils ajoutent la loi, mais ils retranchent quoi?
La grâce.
Plus. Quoi d'autre?
L'œuvre de Christ.
L'œuvre de Christ. La toute suffisance de l'œuvre de Dieu le Père et du Fils par la grâce et le sacrifice de Christ. Ils enlèvent une partie de cela. Si c'est pas complet, c'est incomplet. Si c'est incomplet, Christ n'a pas pu dire sur la croix, tout est accompli. Comprenez l'importance de tout cela? Est-ce que c'est seulement dans le temps des Galates que ça se passe? Je sais que je le répète assez souvent, ça. Non. Au travers des siècles, je vous encourage à lire le livre de... Un livre assez, pas trop épais, assez facile à lire, de Jules Marcel Nicole, précis d'histoire de l'Église. Et il fait un survol de l'histoire de l'Église. OK, c'est quand même un livre qui date de quelques générations en arrière, là. Mais ça fait rien, ça nous fait un survol et on nous montre comment telle branche est allée là, telle branche est allée là, telle branche de l'Église évangélique a pris un, et puis permis de d'ajouter ou de retrancher. OK? Même si on va loin dans l'histoire de l'Église, bon là, je fais une parenthèse dans l'histoire de l'Église, tous les noms que nous portons de dénomination, que ça soit les frères, les missionnaires de l'Alliance missionnaire et je sais pas trop quoi, les pentecôtistes, les baptistes, ce sont des choses qui ont été rajoutées au travers des siècles et de l'histoire. Nous sommes quoi? Pour Claude? Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si on employait un mot plus contemporain, nous sommes des évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous vivons sur l'évangile, la bonne nouvelle. Ok? Alors, je veux pas dire que je suis pas content d'être dans une église baptiste. Je travaille pour l'Association des églises baptistes évangéliques du Québec. Ils m'ont fait tirer les oreilles. Comprenez, c'est pas ça du tout. Mais quand même, c'est quelque chose qui est pas écrit ici, là. Les frères, les pentecôtistes, les évangéliques, les baptistes et compagnie, hein. C'est pas écrit ici. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, la seule chose que Paul parle, il parle de l'église de Thessalonique, il parle de l'église d'Antioche, il parle de l'église de Jérusalem, et le mot église, nous sommes l'église. Okay? Ça, c'est une petite parenthèse. OK, l'importance de ce message. Alors, Galates a reçu un évangile par grâce, vécu une humble foi, et ce sont ensuite devenus les, ils sont devenus ensuite les proies du légalisme, qui promet plus, mais donne moins. Intéressant de voir tous ceux qui disent que il manque quelque chose au salut par grâce, par la foi, ils ajoutent puis ils donnent moins. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Les cérémonies et les rites externes, faites ceci, faites ça ou ne faites pas ça, versus la réalité interne de la foi, recherchez plus, recherchez une deuxième bénédiction, rechercher un secret spirituel, et on voit ça chez certains, entre guillemets, évangélistes. Ils n'ont pas perdu leur salut, les Galates. Okay? Et on le voit tout le long qu'on le lit, ils parlent du Saint-Esprit qui vit en vous, qui dit. Ils n'ont pas perdu leur salut, mais ils ont perdu la joie du salut, la liberté du salut, la certitude et la sécurité du salut, et ils sont retournés à l'esclavagisme du légalisme. J'ai pas dit du péché. Ben, Paul dit pas ça. Mais l'esclavage du légalisme. Nous sommes libres. Oui.
Ils ont perdu la paix aussi.
Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu la paix, la tranquillité de l'esprit.
L'assurance.
Vous savez, l'importance de la sécurité du salut. Quand on enseigne que le salut ne se perd pas, est tellement important. Que je sois le pire chrétien qu'il y ait sur la terre, je ne perdrai pas ma filialité comme fils du Père. Je vais perdre ma récompense, je vais perdre beaucoup de bénédictions. Vous comprenez, je vais perdre la joie d'être avec d'autres chrétiens. Je ne perdrai pas mon salut. Je vais me faire tirer les oreilles quand je vais arriver au ciel, parce que on va devoir rendre compte de toutes nos actions, même nous autres. OK? Pas pour notre salut, OK? Mais pour la récompense. Je vais perdre ma récompense. Okay? Mais je ne perdrai pas mon salut. Et l'importance, quelle est l'importance de la sécurité du salut? C'est vital. T'en arraches, t'as de la misère si t'as pas l'assurance de ton salut. C'est quoi l'importance de la sécurité du salut, l'assurance d'être sauvé?
C'est une garantie.
C'est une garantie. OK.
Parce que veux pas aussi, tu vas penser que quand tu ne marches pas avec Dieu, c'est que tu vas avoir de la culpabilité, tu vas penser que tu as des œuvres à faire. C'est ça, tu vas être dans la tourmente.
Je voulais que le mot « œuvre » sorte. Quand tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu te poses la question « qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus ?» Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la paix? Qu'est-ce que je peux faire pour me coucher et m'endormir en paix? Cette semaine, où elle est, ma belle... Tu me permets que je parle de ton papa? OK. Cette semaine, le papa de Geneviève a eu un arrêt cardiaque. Il est pas mort, il est à l'hôpital, tout est beau. Une artère bouchée à 99 %, c'est presque 100 %. Il n'en passait pas épais. Hein? OK, donc, mais tout est bien. Les médecins, il a dit, vous avez été chanceux. Et qu'est-ce que ton papa a dit? Au plus fort. Il a dit, le Seigneur m'a aimé. Et son papa est loin du Seigneur depuis un bon bout de temps. Le Seigneur m'a aimé. Son papa a fait profession de foi avant, dans le passé. Hein? Okay? Est-ce qu'il était un enfant de Dieu? J'en sais rien. Okay? Si je regarde la vie d'aujourd'hui, je me pose des questions. Sa fille aussi. Mais s'il a vraiment fait profession de foi, si c'était de cœur sincère, c'est un enfant de Dieu. Okay? Et là, il fait face à la mort. Le médecin, il a dit, « Wow, t'as été chanceux. » Puis lui, il a dit à sa fille, « Le Seigneur m'a aimé. » On va prier pour ça que le Seigneur vraiment lui parle. L'assurance du salut. Quand on fait face à la mort, à qui allons-nous crier? Toute une différence dans quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Quand ma maman est décédée, elle priait que le Seigneur vienne la chercher. D'ailleurs, ça a été parmi les dernières paroles qu'elle a dites. Donc, la sécurité du salut. Est-ce que c'est important? C'est prioritaire. Si je ne peux pas avoir l'assurance de mon salut, ça veut dire que le salut sur la croix en Christ n'est pas plus fort. Valide, suffisant, complet. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et si je dois y ajouter quelque chose, Christ n'a pas vraiment dit la vérité en disant tout est accompli. C'est vraiment profond, ça. Et quand Dieu donne une promesse, il n'est pas comme toi puis moi, il la tient. Il tient ses promesses, il ne l'oubliera pas, il est fidèle et juste. Et puis dans Romains, on peut lire comme quoi que ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est déjà le salut au ciel, ça, glorifié. Parce qu'on n'est pas très glorieux sur terre, OK, non? Okay, donc, mais on est déjà glorifié en Jésus-Christ au ciel, notre place est prête. L'importance de l'assurance du salut, et ça, j'y reviens souvent, et c'est quelque chose qu'on peut pas perdre, et je donne souvent l'exemple, mes enfants, nos enfants, on a 4 enfants, qu'ils soient les meilleurs citoyens sur Terre, les plus oubliés de leurs parents, ou qu'ils soient les pires citoyens sur terre, vont toujours rester nos enfants. Que même moi je dise que je les renie, que eux disent qu'ils me renient, ils vont toujours rester mes enfants. Alors si ça c'est valide sur terre avec un homme pécheur comme moi, Dieu peut pas faire moins qu'un pécheur comme moi. OK, on continue. Alors, ils ont substitué une forme de religion sans puissance et sans joie à la plénitude de la vie en Christ. Ça, c'est une phrase que j'ai appris dans le commentaire de M. MacArthur. Ils ont substitué une forme de religion, et je l'ai repris, parce que nous vivons dans un monde où il y a tellement de religions. On va tasser toutes les religions, mais où on vit dans un monde évangélique où il y a tellement de pratiques de religion dans le monde évangélique. Et ça montre... J'ai jamais oublié Jacques Marcoux dans le temps de ceux qui étaient là dans ce temps-là, quand on faisait les croisades aujourd'hui. Jésus-Christ, notre espoir. Merci beaucoup, chérie. Et puis, il avait prêché un de ses thèmes, « Pratiquez-vous la religion évangélique ?» Et quand il a posé la question à l'Assemblée, « Est-ce que vous pratiquez la religion évangélique ?» C'était surprenant de voir une grosse partie de l'Assemblée de lever la main et dire « Oui, je pratique la religion évangélique. » Nous ne pratiquons pas la religion évangélique. Une religion, qu'est-ce que c'est?
Une codification de quelque chose.
Une
codification.
Wow!
Excuse-moi.
Une codification. Wow! Hey, t'es levé de bonheur ce matin, hein? Une codification, donc, quelque chose que...
Des règles à suivre,
oui, chérie.
Une religion, c'est l'homme qui cherche à monter jusqu'à Dieu.
OK, donc, l'homme cherche à répondre à un code pour monter jusqu'à Dieu et obtenir par
les efforts, les travaux,
les œuvres, un salut non mérité. C'est exactement ça, une religion. Dans l'Évangile, dans la Bonne Nouvelle, nous pratiquons une
relation.
Hey, Francine, t'as le droit à un autre morceau de gâteau. Nous pratiquons, ou avec Christ, nous pratiquons une relation. Le mariage entre deux individus, le mariage... Si nous pratiquons quelque chose dans le but d'avoir une faveur, qu'est-ce que nous faisons? On appelle ça de la...
manipulation.
Exact! De la manipulation. Si nous pratiquons quelque chose envers Dieu dans le but d'avoir une faveur, nous pratiquons de la manipulation envers Dieu.
C'est même comme un échange de services, si on veut.
Exact. J'ai été une bonne personne. Quand on dit quelqu'un, tu iras pas au ciel. Oui, mais je suis une bonne personne. J'ai pas menti. Déjà, tout en partant, c'est un mensonge. J'ai jamais tué personne. J'ai pas trompé mon mari ou ma femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis Dieu dit, pour la parole de Dieu nous dit, dès que tu as regardé une autre femme ou un autre homme, tu as commis adultère, tu es né dans le mensonge. Tu es né dans le péché, tu vas mourir dans ton péché si Christ ne fait pas une œuvre dans ta vie. C'est ce que le message du Nouveau Testament, OK. De mauvais témoins donnant l'impression trompeuse aux non-croyants que le christianisme est une question de loi et de foi. Si Galates continue à faire ça avec les judaïsants, ils sont de mauvais témoins, car ils donnent l'impression trompeuse aux non-croyants que le christianisme est une question de loi, de ce que je fais et non de foi. Voyez-vous toute la profondeur de la réflexion de ces quelques choses que les judaïsants font. C'est la même chose dans l'Église catholique. L'Église catholique n'enseigne pas la grâce. Je pourrais aller dans beaucoup d'autres églises aussi, hein. Elle enseigne quoi?
Les œuvres.
Les œuvres. Elle n'enseigne pas la foi, elle enseigne les œuvres. On est sauvé pas par la foi, on est sauvé par ce que l'on fait. Et non par la foi en Christ et par pure grâce.
Et Jésus est mort parce que les Juifs ont été méchants. Il s'est donné et il a payé la dette de notre péché. Il n'y a presque pas de référence à ça. Il dit ça, il est mort pour notre péché, mais ils disent comme une parole vide. La chose qui ressort, c'est ils ont les méchants, ils ont tué Jésus. C'est juste ça qui ressort.
Donc, voyez-vous tout le témoignage que ça donne? Au lieu d'avoir un témoignage éclatant, comme on voit quand on lit Actes chapitre 2, après le message éclatant de Pierre, rempli du Saint-Esprit, et les conversions, 3000 conversions, baptême, et l'Église, qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle va faire des bonnes œuvres pour être sauvée, c'est ça qu'a fait l'Église? Non, l'Église prie. Prends la table du Seigneur ensemble, prends soin les uns des autres, et ils organisent une grande campagne d'évangélisation. Même pas. Ça a tellement d'éclat ce qui se passe dans l'Église, comment l'Église vit en prenant soin les uns des autres, tout ça, que ça attire ceux du dehors. Et le grand prédicateur Pierre ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est ça qui est écrit? Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Très, très différent le témoignage par rapport à quelqu'un qui doit faire des bonnes œuvres. On voit qu'eux, ils prêchent par la foi. Dans Galates chapitre 4, verset 14, Paul apprécie, vous pouvez le voir, mais vous pouvez le voir si vous voulez, c'est pas bien loin. Il dit qu'il apprécie et s'étonne de l'accueil chaleureux qu'il a reçu des Galates. Et le mot « s'étonne », c'est le même mot qui est employé dans Galates 1:6, quand Paul s'étonne de ce que les chrétiens se détournent si facilement de la bonne nouvelle ou de l'Évangile. Ils sont passés de la grâce à la loi et de la foi aux œuvres du calvaire aux cérémonies et de la liberté à l'esclavage. Si aujourd'hui, dans le peuple québécois de souche ici, il y a tant d'opposition à tout ce qui est religieux, c'est à cause de l'esclavage du catholicisme dans le passé. Ceux qui sont plus vieux s'en rappellent encore. Je suis certain que Jacques-François... Je ne veux pas dire que vous êtes vieux, là. Hein? Non, c'est ça. On a été, on est moins jeunes qu'on a déjà été. OK, mais on s'en rappelle de l'esclavage du catholicisme. J'ai été très peu à l'école catholique, parce que mon père était assez anti-catholique, même avant qu'il soit sauvé, mes parents. Mais quand j'ai été à l'école catholique pendant moins d'un an, tous les vendredis, je devais aller avec ma classe à confesse. Hein? OK? Vous vous en rappelez? Puis là, il fallait réciter toutes sortes d'affaires que j'ai jamais appris. Les actes de contrition, les ci, les ça. Puis là, on donnait nos péchés. Mais moi, je suis un pécheur né, hein, comme nous, chacun de nous autres. Et comme je connaissais pas toutes ces patentes-là, je m'organisais toujours pour rentrer. Vous savez, il y avait le prêtre était au milieu, le curé était au milieu. Puis il y avait deux bocs chaque côté avec les rideaux, tout ça. Je m'arrangeais toujours pour vous dire à quel point on est vicieux. Et j'étais pas vieux, hein. C'était première année, quelque chose comme ça, là, OK? Je m'arrangeais toujours pour rentrer juste après un de mes chums d'école qui rentrait pour, oui, je rentrais après. Donc, ça veut dire que la porte s'ouvrait pour lui. Tu sais, puis là, lui, il récitait tout ça. Puis, j'écoutais, là. J'entendais tout. C'était cute. Et puis, quand j'entendais qu'il glissait la porte, c'était fini, là, je sortais avant l'autre. Je me suis jamais fait poigner. Et j'ai jamais appris avec des contritions. Mais c'était une petite parenthèse, ça, c'était la peau. OK. Petit vlimeux, hein. OK. Verset 1. Dépourvu de sens ne fait pas allusion à une déficience. Quand il parle, vous êtes dépourvu de sens, OK. Insensé. Dépourvu de sens. Il y a différentes versions qui emploient le mot aux Galates insensé. Il y a d'autres mots, peut-être dans, je sais pas comment c'est dit dans la Summer, dans la version plus moderne, insensé. Claude? Stupide. OK, donc on voit que c'est... Alors, insensé, stupide, dépourvu de sens, ne fait pas allusion à une déficience intellectuelle, mais à la paresse ou des laissés intellectuels. Ils ne sont pas idiots, mais ils ne réfléchissent pas. Frères et sœurs, nous ne sommes pas, en Christ, des imbéciles. Okay? D'ailleurs, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas traiter quelqu'un de stupide. Okay? Nous ne sommes pas des imbéciles, nous sommes des gens qui réfléchissent. Et quand Jésus a rencontré Nicodème de nuit, corrigez mon nom, c'est le bon nom, Nicodème de nuit, hein? OK, là. Est-ce qu'il l'a traité d'idiot?
Non,
il a répondu à ses questions, il a dit, voilà ce que tu as besoin. Et qu'a fait Nicodème? Que faisait Nicodème? Ouais, mais que faisait, dans la discussion avec Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, Nicodème?
Il réfléchissait.
Quand on parle, quand on lit la parole de Dieu, quand on parle à quelqu'un et qu'il réfléchit, respectons le temps de réflexion de la personne avec qui on parle. On y annonce quelque chose de grand, de glorieux, d'impossible à ses yeux. C'est impossible que quelqu'un nous ait assez aimé. Okay? Dieu, le Dieu, nous ait assez aimé pour volontairement envoyer son Fils. La parole de Dieu nous dit qu'il a plu à Dieu d'envoyer son Fils pour naître humblement dans une mangeoire et bestiaux, pour finir sur la croix, être séparé de Dieu parce que Christ portait mon péché, ton péché. C'est ça la bonne nouvelle. Wow! Et ressuscité, oui. D'ailleurs, on va le voir ressuscité un peu plus tard, si on a le temps. Et puis, tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, l'être humain. L'être humain, tu fais quelque chose, je te donne quelque chose. Tu fais rien, je vais te donner une volée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la nature humaine. Et c'est la religion, la pratique de la religion. On a fêté le Yom Kippour cette semaine, chez les Juifs. Qu'est-ce que c'est que le Yom Kippour? Non, ça n'a rien à voir avec le yogourt.
C'est pas le pardon?
Le Yom Kippour, c'est ce qui est appelé le grand pardon. C'est là que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, rentrait dans le lieu très saint pour présenter le sang pour le pardon du peuple. OK? Ils le font encore, sauf qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus de présentation du sang, mais ils le font encore. OK? Le grand pardon. OK? Ils n'ont rien compris que le grand pardon a été présenté par Christ sur la croix, présenté par Christ à son Père. C'est ça, le grand pardon. Qui c'est qui a dit ça? Une fois pour toi. Une fois pour toi. Bon. OK, je continue. OK. Alors, le terme grec, là, insensé, sous-entend une mauvaise attitude, un manque de foi qui embrouille le jugement. Jésus utilise le même terme insensé avec les deux disciples d'Emmaüs et il les traite d'hommes sans intelligence. OK? Donc, c'est le même terme. Attention de ne pas nous laisser emporter par nos sentiments. Quand on nous présente comme quoi que nous méritons l'enfer, c'est vrai. Okay? Que nous ne méritons pas le ciel, le pardon, c'est vrai. Que nous devrions vivre une vie sainte pour mériter le ciel, c'est faux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mener une vie sainte? Non. Mais on ne mène pas une vie sainte pour mériter le ciel. On mène une vie sainte parce qu'on a hérité du ciel. C'est totalement différent. Alors attention, ils vont toutes ces réflexions-là risquent d'aller chercher nos sentiments et on est plus ou moins faible par rapport aux sentiments. Il y en a qui sont, il y en a qui auraient besoin d'avoir un petit peu de ramollissement, là, tu sais, parce qu'ils sont trop durs. Puis il y en a d'autres qui auraient besoin d'un peu de fermeté parce qu'ils sont trop mous dans leurs sentiments. Attention de ne pas se laisser manipuler par le sentiment. Tout à l'heure, on a parlé de fasciné. On a défini fasciné. Pas de problème, on retourne pas là-dessus. Mais dans le mot fasciné, ils se sont laissés endoctriner. Ils auraient dû instantanément reconnaître comme faux l'enseignement, le repousser. Donc, ils sont devenus les Galates des victimes consentant. Lorsqu'on consent à écouter le mensonge, on devient partie prenante avec le mensonge. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir même de relation avec de telles personnes. Quand quelqu'un frappe à votre porte pour présenter un autre évangile que Jésus-Christ, Dieu, et seul sauveur, qu'est-ce qu'on doit faire? OK? Presque ça. Je pense que... Faut être poli, c'est ça? Je lui dirais pas, t'es maudit, je t'envoie à la porte, puis il donne un viré de bord, puis il donne un coup de pied où je pense. Non.
De quelque façon, il faut essayer d'ouvrir la porte à l'Évangile, quand même, sans leur donner la possibilité de nous prêcher la leur. Quand les témoins de Jéhovah viennent chez nous, j'ai commencé à dire, écoutez, moi, je connais la Bible, vous voulez me parler de la Bible? Je la connais, la Bible, ça fait bien des fois que je la lis. Vous ne pouvez rien m'apporter parce que ce que vous voulez m'apporter, je le connais déjà. Je l'ai réfuté. Alors, c'est là. Jésus m'a sauvé.
J'ai travaillé 23 ans avec Michel. Je l'appelle un ami. Témoin de Jéhovah. Et je lui ai parlé de l'amour que Dieu avait pour lui pendant 23 ans. Je lui ai témoigné l'amour que Dieu a pour lui. Je lui ai dit, te rends-tu compte, Michel, que Christ est mort pour que tu sois délivré de la crainte du salut par les œuvres, j'ai dit. Sans Christ, sans reconnaître, parce que le premier problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que Christ est Dieu, sans reconnaître que Christ est Dieu, tu ne peux pas avoir accès au Père. La parole de Dieu est claire. Quand on ne reconnaît pas le Fils, nous sont ceux qui ne reconnaissent pas le Fils comme Dieu sont des 1 Jean, des antichrists. Ceux qui ne reconnaissent pas le Père et le Fils comme Dieu sont des antichrists. Ceux qui ne reconnaissent pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme Dieu sont des antichrists. Vous pourrez dire ça dans Jean. Important tout ça, alors. Comme Dieu n'accepte pas le partage, oui, Claude, je reviens avec mon partage après. N'importe quelle religion. Alors, attention, je suis d'accord avec Claude, mais si tu ne te sens pas assez fort, dis-lui, moi j'ai la paix, Jésus m'a pardonné tous mes péchés. C'est tout, merci. Est-ce que tu peux m'apporter plus? J'ai l'assurance de mon salut. Il y a un cantique qui changeait l'assurance de mon salut. Hein? Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose de plus? Ils vont être obligés de te dire non. Donc, même il y en a qui m'ont dit, je suis content pour vous. Mon chum, là, Michel, m'a dit, je suis content pour vous.
Ça les trouble plus, ça, que d'essayer de s'argumenter.
Oui, définitivement. Dieu n'accepte pas le partage. OK, dans l'Ancien Testament, quel était le reproche principal que Dieu faisait à Israël? Vous êtes adultère. Vous avez d'autres dieux dans votre vie. Vous êtes adultère. Est-ce que Dieu a changé?
Non.
Non. Est-ce que Dieu accepte de partager sa divinité? Non. Il est encore jaloux. OK? Je ne partage pas mon épouse avec aucune autre personne. Okay? C'est ma femme. Je suis son époux. OK? Mais encore là, c'est un faible exemple par rapport à la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux et ne permet pas même qu'on ait des pensées adultères. Ce que nous, malheureusement, nous avons. Alors, Dieu ne partage pas avec personne. Le salut, sacrifice et résurrection de Christ n'a besoin d'aucun ajout. Que nous dit Paul dans les versets 2 à 4? Juste, on va les lire rapidement pour se rappeler. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'Esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain, etc. Donc, que nous dit Paul dans ces versets? Est-ce par les œuvres de la loi ou par la foi que vous avez reçu l'Esprit? Et ayant reçu l'Esprit par la foi, comment pouvez-vous vous laisser égarer par des judaïsants? Revenez plus. Les judaïsants qui disent, vous recevrez plus par les œuvres de la loi. OK? Est-ce que vous allez retourner aux œuvres de la chair? C'est ça qu'il dit. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu par la foi. Pensez-vous avoir plus en retournant aux œuvres de la chair? C'est ça que Paul le dit, là. Et il leur brasse la cage. N'oublions pas que quand Paul écrit ça aux Galates, là, ils le reçoivent comme une lettre personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est la première fois que Paul devait leur dire ça? Non. Quand il devait être sur place, il devait leur dire la même chose. Et là, il leur écrit, là, il dit, hey, réveille. OK, là? Est-ce que tu penses avoir plus? Mais il n'y a pas juste les Galates qui, eux, se laissent enfirouaper, là. Mais il y a les judaïsants qui sont là aussi. Et il les traite de chrétiens de deuxième classe qui enseignent un faux évangile. Ça devait brasser dans l'Église un peu. Hein? Ça devait brasser un peu dans l'Église à ce moment-là. Le Saint-Esprit n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. Il en est... Réfléchissez au bout. Oui. Il en est quoi? L'auteur, la source. Okay. Avoir l'esprit n'est pas l'objectif. Avoir plus n'est pas l'objectif. Quoi qu'on on l'a. Donc, vous voyez aussi le faux enseignement d'une deuxième ou d'une troisième bénédiction avec l'esprit. Parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'esprit, n'a pas le Fils, il n'appartient pas à Dieu. Celui qui a le Fils est scellé du Saint-Esprit, donc il a l'Esprit. Tu as accepté Christ comme ton sauveur, tu lui as donné tous tes péchés, il t'a sauvé et tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a toute la place dans nos vies? Il devrait avoir toute la place dans nos vies et c'est quelque chose qu'on va travailler à la plénitude du Saint-Esprit toute notre vie. Est-ce que ça veut dire qu'on va être plus sauvé ou moins sauvé? Non! Non! Ça veut dire qu'on va avoir une plus...
Meilleure conduite.
Conduite, oui, mais une meilleure relation.
Ah oui.
OK? Je suis marié de... On va prendre Richard et Mimi, c'est le... On va leur fêter le fête aujourd'hui. Ils sont mariés depuis 45 ans. OK? Est-ce qu'ils sont plus proches, je vous pose la question, êtes-vous plus proches l'un de l'autre aujourd'hui, après 45 ans, que la première année où vous étiez mariés?
Oui.
Définitivement. Définitivement. OK? Et papa disait, papa était chez nous là, dans les 24 heures, puis il disait comme quoi que on peut pas se séparer après 61 ans de mariage. OK? Et puis, donc, il rêve encore un moment, on devient proche l'un de l'autre. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Le Saint-Esprit prendra, on va rechercher sa plénitude, et plus il aura de place dans nos vies, plus la relation sera facile et complète. Quand on parle d'envoûter, OK, on parle de sort, on parle de sorcellerie, on parle de tout ce qui touche la doctrine des démons, OK? Est-ce que Satan a une emprise sur l'enfant de Dieu?
Non. Il faut être sûr d'être en Christ.
J'ai une réponse. Non. Est-ce que j'ai un oui?
Oui.
Oui. OK. En 30 secondes, tu me dis que non, développe ton point non.
Parce que je suis sûr d'être en Christ.
OK.
Je vais pas m'attaquer.
OK. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit vit en nous.
Oui.
L'enfant de Dieu ne peut pas être possédé par Satan.
Oui.
D'accord?
Mais
est-ce que Satan ne vient pas vous tenter, vous autres?
Oh, ben,
ouais. Est-ce qu'on écoute toujours le Saint-Esprit qui vit en nous?
Non.
Ou est-ce qu'on écoute malheureusement Satan qui nous envoûte? Comprenez ce que je veux dire? Maintenant, tout dépendant à quel point on va se laisser envoûter dans une fausse doctrine, attention, soyons subtils. Ne doutons pas de la parole de Dieu. Doutons, avec respect, de ceux qui nous enseignent.
Oui.
Regardons si, que ce soit moi, Richard ou d'autres, des anciens ici, des pasteurs ici, qui enseignent. S'ils enseignent la parole de Dieu, je parle pas s'ils enseignent, s'ils ont une position prémillénariste sur le retour de Jésus-Christ ou un millénariste. C'est pas ça que je dis pas en tout, là. Est-ce qu'on enseigne que Jésus-Christ revient bientôt? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, on doit regarder. Mais ne doutons pas de la parole de Dieu. Soyons fermes. Si nous ne confessons pas nos péchés, qu'est-ce qui va arriver? Non, Dieu est toujours juste pour nous pardonner. Mais est-ce qu'on va être pardonné si on confesse pas nos péchés? Alors, il y a deux pardons. Voyez-vous, le pardon, là, c'est important de regarder ça. Pourtant, quand on lit dans Matthieu, hein, Père, pardonne-nous nos offenses. Ah, mais si je pardonne pas, moi, est-ce que Dieu va me pardonner? Pas nécessairement. OK, donc la confession fait partie de la vie. Et lorsqu'on ne confesse pas nos péchés, on ne se rapproche pas de Dieu. OK, c'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Notre salut est garanti. OK, il n'y a pas de problème. Mais on éteint le Saint-Esprit tranquillement. Et là, quand on éteint le Saint-Esprit, nous laissons tomber nos gardes, nos défenses. Comprenez-vous l'importance de demander pardon? Attention à ceux qui vous disent « Oui, mais tu pratiques toujours le même péché. Seigneur, il ne te pardonnera plus. » Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu dit?
Non.
Il nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner quelques péchés. Tous nos péchés. Maintenant, ne faisons pas de cela une excuse pour pécher plus. C'est exactement ça que le texte dit. Mais on doit demander. Attention! Ouais, c'est la théorie de Rasputin. Rasputin vivait comme ça et il se vautrait dans le péché. Mais lui, je suis loin d'être convaincu que Christ était dans sa vie. OK, le Saint-Esprit, je l'ai lu, n'est pas la source, OK. Un peu plus loin, dans les versets 6 à 9, l'Ancien Testament enseigne le salut par la foi plutôt que par les œuvres, et il prend l'exemple de
Abraham.
OK, il me reste 10 minutes pour parler d'Abraham. Abraham, le père des Hébreux, patriarche suprême, preuve indéniable de la circoncision. Quand est-ce que Abraham a été justifié? Quand? Avant la circoncision, quand il a accepté de partir, quand Dieu s'est révélé à lui, et il a été circoncis, combien de temps après ce moment-là? 14 ans. 14 ans, et il a été justifié par? On voit ça où?
Dans
Romains et aussi dans Hébreux 11. OK? Justifié par la foi, 14 ans avant sa circoncision et 500 ans avant la loi mosaïque. Assez que les rabbins, et je lisais ça dans des commentaires, assez que les rabbins enseignent que Dieu a révélé spécifiquement à Abraham la loi, à Isaac, Jacob, Isaac, Joseph, il leur a enseigné spécifiquement la loi, parce que la loi est venue beaucoup plus tard que ces gars-là. Mais c'est des balivernes, ça, OK? Il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui dit ça. Qu'est-ce que Dieu a révélé à ces hommes-là, Abraham, Jacob, Isaac, Joseph? Marche avec moi. Et ils ont marché avec foi. Et ils ont été justifiés par
la foi.
C'est ça que Paul dit dans le passage-là. Il dit, c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations, nous autres, OK, les païens, doivent, comme Abraham, se faire circoncire.
Non,
pas partout, c'est ça. Hein? OK, ils doivent marcher par la foi. Et que Dieu susciterait à Abraham une descendance de toutes les nations. Nous sommes des descendants d'Abraham. Par la foi. OK, j'ai pas... Ben écoute, peut-être que j'ai de la descendance juive, vu que mon père connaît pas son père, on le sait pas. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Mais par la foi, Abraham est notre père à tous. Probablement plus, et c'est ce que Paul dit, que ceux qui marchent par la loi. OK? Autrement dit, si Dieu voulait, il va susciter des fils à Abraham, des pierres qui sont devant nous autres. En gros, c'est ça qu'il disait. Même argument dans Romains 7, vous pourrez le lire, dans Romains chapitre 4, vous pourrez le lire. Hein, Romains 2, verset 28-9, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celui qui l'est extérieurement. Ça ne veut pas dire que celui qui est circoncis ne l'est pas intérieurement. Mais la foi est intérieure et le salut est intérieur. Et dans Jean 8, on pourrait voir, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et vous auriez la foi d'Abraham. Et là, Jésus leur dit dans Jean 8, et maintenant vous cherchez à me faire mourir. Vous avez pour père... Intéressant, vous irez lire ça dans Jean 8, 37 jusqu'à 44. Il parle aux Juifs, aux leaders juifs qui marchent selon la loi, et il leur dit, vous n'avez pas pour père Abraham, vous avez pour père
le diable.
Le diable. Ils ont peut-être pas aimé ça tout de suite. Hein? Ils ont peut-être pas aimé ça tout de suite. Ça veut, c'est Jésus qui parle. Hein? Attention à nous autres de ne pas être présomptueux et de dire à quelqu'un, t'as pour père le Yob. Attention. Parole de Dieu nous dit de parler avec amour, avec douceur, avec fermeté. Hein? Attention. Il y a un temps pour dire des choses. L'idéal, c'est de parler, de laisser la parole de Dieu parler, tu sais. Dire, tu leur laisses lire un passage comme ça, tu sais. Puis tu lui demandes, où te trouves-tu dans ce passage-là? Puis il va dire, ben, si je comprends bien, moi qui refuse Christ, j'ai pour père le diable. C'est pas toi qui l'as dit. Qu'est-ce qui l'a dit? C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Comprenez-vous ce que je veux dire? La parole de Dieu qui parle. Exact. Hein? Quand j'ai été faire des visites d'évangélisation avec Monsieur Keefe dans le passé. Monsieur Keefe était vraiment spécialiste pour faire lire les versets. Virer sa Bible de bord. Lis tel verset, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, oui, mais regarde ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, mais regarde, par rapport à ça, on peut avoir le père Abraham comme père. Est-ce que t'as Abraham comme père? Comprenez ce que je veux dire? Laissez la parole de Dieu parler, c'est idéal. OK. Abraham, c'est un modèle de foi et d'obéissance. Et il a tout fait ça sans la loi. C'est ça qu'il dit. Bien avant Moïse, bien avant la loi et bien avant la circoncision. Alors, seuls ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes des filles et des fils d'Abraham. Si Christ est en vous, si vous avez la foi en Christ. OK. Verset 10 à 12. Les judaïsants insistent sur le fait qu'il faut garder la loi. L'Écriture montre la folie d'une telle affirmation. Abraham a été déclaré juste 14 ans avant sa circoncision, 500 ans avant la loi mosaïque, etc. Grâce et foi, bien avant la loi. Même, reculons encore plus avant Abraham, est-ce que Dieu a exprimé la grâce envers Adam et Ève?
Oui.
Définitivement. Quand il a dit, si vous touchez à l'arbre du fruit défendu, qu'est-ce qu'il a dit, vous?
Oui.
Est-ce qu'Adam et Ève sont morts?
Oui.
Oui. Mais pas en deux spots. Par grâce, Dieu a fait quoi?
Il leur a laissé du temps.
Pardon, chérie?
Il leur a laissé du temps.
Il leur a donné du temps, il les a couverts, leur nudité, parce qu'avant, ils étaient tout nus, puis ils s'en apercevaient pas. Ça avait l'air que c'était normal, vivre tout nus comme les animaux. Mais je ne veux pas dire que c'est des animaux, hein. Allez pas dire que Dominique a dit que Adam et Ève c'était comme des animaux. Je n'ai pas dit ça. OK? Mais il a couvert leur nudité, il a couvert leur péché, il a pourvu à un sacrifice qui a couvert leur péché jusqu'à un certain point, OK? Parce qu'il les a couverts avec des feuilles, comme on voit souvent dans les peintures. Il a couvert avec des peaux d'animaux, etc. Et il les a sortis du paradis terrestre, du jardin d'Éden. Pourquoi?
Par grâce.
Par grâce, pourquoi?
Parce que Dieu
ne peut pas voir le péché, il ne voyait pas à l'extérieur.
Voilà,
pour pas qu'il ne puisse prendre du fruit de la vie et vivre éternellement avec le péché. La mort, nous, eux, ils ont vécu longtemps, là, bien longtemps. Là. Avec moi, je pourrais multiplier par 10 mon âge pour me rendre à ces âges-là. Là. Je n'ai pas l'intention de vivre 600 ans, OK, là? 60, tu sais, 100 ans, c'est en masse. J'ai toujours dit à ma femme que je vivrais 100 ans. Elle y croit de moins en moins. J'ai pas dit qu'elle espère de moins en moins. J'ai dit qu'elle croit de moins en moins. OK? Donc, il les a sortis par grâce, par amour. Et on voit Adam et Ève qui quand même avaient
la foi.
OK? Donc, on voit la grâce et la foi en Adam et Ève. Et tout le long des patriarches, OK, de Noé, tout ça. Est-ce que Noé était un homme de foi?
Oui.
Écoute bien, là, quand on relit ça, je termine avec Noé, là. Quand on lit l'histoire de Noé, qu'on lit les commentaires sur Noé, écoute, qu'on lui annonce qu'il va mouiller, puis que ça va engloutir les montagnes, dans un endroit où il pleut pas beaucoup. OK? Puis même beaucoup de commentaires disent qu'il n'y avait jamais plu, il y avait comme une petite nuée le matin, tu sais. Puis là, on lui annonce de la pluie, puis ils vont mouiller, puis il va falloir que tu fasses un bateau. OK? Puis c'est pas une chaloupe à rame qu'il leur a fait construire, hein. Puis là, il dit, les animaux vont venir par couple, ils vont venir tout seuls dans le bateau. Est-ce que ça a pris combien de temps à construire l'arche? OK? Alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours dit, je prends des engagements. Donnez-moi pas des engagements qui durent trop longtemps. Okay. 100 ans. Est-ce que ça prend de la foi? La foi existe depuis. Alors, la malédiction. Un passage très intéressant. Verset 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la condamnation. Et Christ est devenu pour nous malédiction. Et c'est pour ça, à cause qu'il était maudit avec ton péché puis mon péché, Dieu ne pouvait plus regarder son Fils. Et c'est le seul passage dans tous les évangiles où Jésus appelle Dieu, Dieu, et ne l'appelle pas Père. C'est le seul passage. Je l'avais jamais remarqué. Il a fallu que je le lise dans les commentaires. Ça m'avait jamais frappé. Pourquoi? Il était comme un homme, là. Il n'était pas un homme pécheur, parce qu'il n'avait pas péché, mais il était revêtu du péché, le tien, le mien, et il était maudit devant Dieu, et Dieu ne pouvait plus regarder son Fils à cause de toi, à cause de moi. C'est ça qu'il était. Et ça, les Juifs ne peuvent pas accepter que le Messie soit maudit. et soit crucifié et soit mis à mort. Et ça, c'est une des difficultés pourquoi ils ne veulent pas accepter que Jésus est le Messie. Le problème, c'est qu'ils devraient lire les Écritures, lire l'Ancien Testament, où l'on parle du Messie qui est un agneau sans tache, amené où? Au party? À la boucherie. Okay? Donc, c'est intéressant de lire cela. Alors, intéressant. Christ a été maudit à cause du péché, à cause de ton péché, à cause de mon péché. J'ai réussi à finir. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus longtemps sur la malédiction de Jésus. Prions. Père Céleste, on veut te louer, te remercier pour tant de grâces que tu as répandues dans nos vies. Merci pour le fait que, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils, ton unique, volontairement mourir sur cette croix. Le Fils a consenti d'obéir volontairement. Merci Seigneur pour tant d'amour que tu as répandu sur nous. Et nous pouvons t'appeler par Jésus-Christ, Papa. Jésus a dit qu'il partait nous préparer une place. Il présente à Dieu chacune des âmes des enfants qui appartiennent à Dieu, purs, sans tache, pardonnés. Merci Seigneur pour un si grand sacrifice. Merci Seigneur pour ta parole qu'on peut méditer comme on l'a fait ce matin. Merci Seigneur pour le fait qu'on peut la méditer toute notre vie. Ne permets pas, Seigneur, qu'on soit trompé par des doctrines, par des faux enseignements qui veulent rajouter ou retirer un si grand salut. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours prêché dans nos vies. Un Jésus-Christ mort et ressuscité, glorifié auprès du Père pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.